Voilà, je vous propose un passage de 2 Samuel, le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel et au chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Et nous allons nous entretenir sur ce personnage de Mephibosheth. Donc 2 Samuel chapitre 9, je vais lire le chapitre, hein, il n'est pas très long, et puis ça permettra d'avoir le récit. Donc 2 Samuel chapitre 9, et je commence au verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tziba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tziba ?» Il lui répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tziba répondit, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Mephibosheth ?» Il lui répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il, Mephibosheth, se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton père, ton maître, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Mephibosheth, certainement, n'est pas très connu de beaucoup de gens. Ce n'est pas un grand personnage de la Bible. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un roi. C'est pas... Et il n'y a pas de grandes œuvres qui lui sont attribuées. C'est seulement quand Saül est mort, a été tué, quand Jonathan est mort, eh bien la nourrice de Mephibosheth, fils de Jonathan, eh bien la nourrice a pris peur parce que la coutume c'était que quand le roi meurt, eh bien quelqu'un vienne et tue tous les descendants, hein, pour ne pas avoir de menaces. Et donc, la nourrice a fait ce qui était normal, c'était considéré normal à l'époque, c'est qu'elle prenne ce bébé, hein, et puis qu'elle fuit avec pour le protéger. Mais dans sa course, dans sa fuite, elle l'a laissé tomber, et ses pieds ont été abîmés, et il n'a plus jamais marché avec ses... Il n'a plus jamais marché. Et Et donc, et il quitte le territoire, il traverse le Jourdain, et il va dans un territoire qui s'appelle Lodebar, qui veut dire en hébreu sans pâturage. Donc, c'était certainement un endroit désertique, un endroit où on ne chercherait pas un prince. Parce que Mephibosheth, puisque tous les fils de Saül sont morts, eh bien Mephibosheth, c'était le prince qui pouvait être roi. Mais là, il est loin. Et c'est pour ça que, et puis le fait qu'il soit estropié, qu'il ne puisse pas marcher, ça faisait pas bien pour un roi. Un roi ne pouvait pas conduire une nation, une armée, alors qu'il était estropié. Et c'est pour ça qu'il est étonné quand David l'invite. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à un chien comme moi? Il dit, mais je suis rien, je représente rien, je suis même pas une menace, je peux rien faire. Pourquoi est-ce que tu t'occupes de moi? Et la question, c'est pourquoi est-ce que David l'invite à manger à sa table et tous les jours et avec ses fils. Donc il lui accorde cet honneur. Il le met au rang de ses propres fils. Eh bien, finalement, Mephibosheth était pour rien dans tout cela. Et il n'y avait rien qui pourrait intéresser David, rien. Mephibosheth ne représentait pas ni une menace, ni un avantage. Il n'y avait vraiment rien. Et même, pourquoi avoir cette personne supplémentaire dans le palais? Mais, et voilà la raison, c'est que vous vous souvenez, après que David a vaincu le géant Goliath, eh bien, Jonathan à s'intéresser à David, ils sont devenus de grands amis et ils se sont fait alliance. Et c'est Jonathan, l'héritier du trône, le prince, qui fait alliance avec un berger de Bethléem. C'est vraiment, du point de vue social, du point de vue tout ça, ça ne correspond pas. Hein, en général, les gens de là-haut, ils restent là-haut. Et les gens d'en bas, ils restent en bas. Hein, c'est ça la vie, on est habitué à cela. Mais là, c'est Jonathan qui s'intéresse à David. Et Saül l'a souvent critiqué, hein, le roi l'a souvent critiqué, il lui a dit, mais pourquoi est-ce que, tu sais, si jamais lui, il vit, il pourrait prendre le trône, il pourrait te vaincre. Et Jonathan dit, mais tant mieux. Il ne cherchait pas son ambition, il cherchait le bien. Il cherchait le bien du peuple de Dieu. Et si Dieu voulait David comme roi, ben pour Jonathan, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas roi, il n'est pas roi. Que le meilleur soit roi. Et donc, il y a une alliance entre eux. Par la suite, bien sûr, Saül se rend compte qu'il y a une alliance entre eux. Et il menace David, il essaye de tuer David. Et là, alors l'alliance devient encore plus grande, parce que là, ce n'est pas seulement une alliance entre eux qu'ils vont être amis et se protéger l'un l'autre, mais en plus, ils se sont fait alliance dans le sens, au chapitre 20, 1 Samuel 20, verset 42, ils s'engagent vis-à-vis de les postérités de l'un et de l'autre. Il dit, tu feras, c'est pas seulement que tu ne me tueras pas, et que je ne te tuerai pas, mais tu ne tueras pas, même pas mes enfants, et moi je ne tuerai pas tes enfants. On ne sait pas ce qui va arriver, mais la question c'est qu'on se fait une promesse. Mephibosheth, il n'est pas au courant de cette alliance. Lui n'a que 5 ans. Il a à peine connu son père. Et il ne sait pas qu'il y avait quelque chose entre son père et David. Donc il ne pouvait pas le prétendre. Il ne pouvait pas dire, ah oui, mais tu te souviens que avec mon père, tu avais promis, hein, vous vous êtes promis, alors il faut que tu t'occupes. Il n'est pas au courant. Il ne le sait pas. Et ce qui aurait été facile pour David, c'est de dire, bon, il n'est pas au courant, personne n'est au courant, il n'y a pas de survivant. Eh bien, laisse tomber. Hein, je ne tracasse pas avec cela. Non, c'est là où c'est un point positif au caractère de David, c'est qu'il dit « J'ai promis, je garde ma parole. » Et il se souvient. Et c'est lui qui va aller informer Mephibosheth, lui dire « Il y avait une alliance entre ton père et moi, et donc je veux te faire du bien. » Ça me fait penser à cet homme très riche, qui n'avait pas d'héritier, et donc qui a été voir son avocat, il dit « Voilà tout mon argent, je veux que tu signes et tu promettes de mettre tout mon argent dans mon cercueil quand je meurs. » Bon, après, on n'est pas là pour se vérifier. Hein, il lui fait signer et promettre. Il dit « Je te promets, je mettrai tout ton argent dans ton cercueil. » Le jour de l'enterrement, eh bien, il garde la parole, il fait un chèque et puis jette le chèque dans la tombe. David n'est pas comme ça. David, eh bien, il le fait exactement comme c'était prévu. Et là, nous devons, quelque part, il y a un exemple pour nous aussi. Hein, parfois, on fait des promesses, et puis, personne n'a oublié, laisse tomber. Si moi, j'y ai pensé, même si l'autre a oublié, ou même s'il n'ose pas me le rappeler, c'est à moi, si je m'en souviens, c'est à moi de garder cette promesse. Et je sais, et j'en ai été coupable, souvent on fait des promesses, et puis après on les oublie, ou bien on espère que l'autre a oublié, et puis on laisse passer. Et là, ça aurait pu être très facile pour David. Et déjà, c'était pas mal, le fait que David ne tue pas Mephibosheth. Donc déjà qu'il ne le tue pas, c'était une grâce inespérée. Mais qu'en plus, non seulement il ne le tue pas, mais il l'amène au palais, et il le compte parmi ses fils. Et la question, là, au début du chapitre, la préoccupation de David, c'était « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» C'est pas à cause de Mephibosheth, c'est à cause de Jonathan. J'aime Jonathan, je l'aime toujours, je l'ai toujours respecté. Et si je peux faire quelque chose en l'honneur de Jonathan, je vais le faire. Et c'est un engagement. Et il va trouver Mephibosheth. Il va l'amener jusqu'à devant lui. Il va dire « Est-ce que tu es Mephibosheth, fils de Jonathan ?» Il dit « Oui ». C'est intéressant là où il l'a trouvé. Il l'a trouvé qui habitait chez Makir. Makir veut dire « le vendu ». C'était vraiment une situation triste. Et là, Mephibosheth arrive dans la présence de David. Il nous dit qu'il se prosterne. Il reçoit l'héritage de son père, ce qui était à lui. Hein, il est l'héritier, donc il reçoit le territoire qui appartenait à son père et à Saül, hein, toute la famille. Et en plus, il reçoit cette invitation de manger à la table du roi et pour être là tous les jours, parce que Saül était de Benjamin, hein, donc c'était la tribu d'à côté, le territoire au nord. Donc, comme il ne peut pas revenir chaque jour pour manger à midi, eh bien, donc lui doit habiter à Jérusalem. Et puis en plus, Mephibosheth dit, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas digne de cette faveur, ni de cette grâce, ni rien du tout. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, je ne comprends pas. Et David dit, tu habiteras avec moi dans la ville, tu seras en sécurité. Je te veux là. Je ne pense pas que c'était pour le surveiller qu'il était là, parce qu'il n'était pas vraiment en danger. Il n'avait pas été en danger jusque-là. Et là, quand David le fait, son royaume est bien assis. Il a plein pouvoir. Hein, donc là, il a fini toutes ses guerres. Il y a la paix partout. Il domine tout. Ce n'est pas un petit Mephibosheth qui va le menacer, il n'a pas besoin de l'avoir là devant lui pour le voir tous les jours, pour être sûr où il est. Non, non, c'est vraiment, c'est sincèrement qu'il a voulu faire du bien à cause de Jonathan. Et le mot-clé, c'est à cause de Jonathan, hein, pour Jonathan. Et vous savez, parfois on peut avoir le même sentiment, nous aussi, devant Dieu. On dit, Dieu, mais pourquoi est-ce que tu cherches mon bien? Pourquoi est-ce que tu veux ma communion? Tu veux que je te parle? Pourquoi est-ce que tu veux que je vienne dans ta présence? Pourquoi est-ce que tu me prépares? Je suis un homme pécheur, je suis, même les gens du monde, même ma famille se fatigue de moi. Et toi, tu veux que je sois avec toi pour toujours. Pourquoi? Eh bien, c'est vrai que nous ne sommes pas dignes. Et en fait, même dans Romains 5, là où nous lisions tout à l'heure, il nous dit que lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Nous ne sommes pas dignes parce qu'il est mort au temps marqué pour des impies. Hein, et Dieu l'a dit, il n'a pas dit, non, je vous ai aimé, vous êtes des gens très bien, mais vous étiez coincés, alors j'ai trouvé un moyen de salut parce que vous êtes quand même gentils, j'ai voulu vous sauver. Non, il a dit, non, vous êtes des pécheurs, vous êtes des impies, vous êtes impieux, vous êtes souillés, mais j'ai voulu vous sauver. Et pourquoi? Eh bien, en fait, si Dieu nous traite bien, c'est par amour pour son fils. C'est à cause de Jésus-Christ. Tout comme David a dit, moi, je te fais du bien à cause de ton père, Jonathan. Et je suis engagé, j'ai une alliance avec ton père, donc je te fais du bien. Et dans un sens, pour Dieu, eh bien, il nous dit, moi, je te fais du bien par amour pour mon fils. Et vous savez, ça nous sécurise dans notre salut. Parce que finalement, ça n'a rien à faire avec ma performance. Mais ça a à faire avec l'engagement qu'ils ont pris entre eux. Mephibosheth, il ne lui a pas demandé, est-ce que tu as été gentil? Est-ce que tu n'as jamais dit du mal sur moi? Est-ce que tu es bon avec ton fils? Est-ce que tu es gentil avec ta femme? Est-ce que tu étais bon avec moi? Il ne lui a rien demandé. Il a dit, est-ce que tu es le fils de Jonathan? Il a dit oui. Et bien, il dit, je veux te faire du bien. Et dans un sens, c'est un peu comme ça. Dieu, il dit, mais est-ce que tu es un être humain? Tu es un homme? Eh bien, moi, j'aime les hommes. Mon fils est devenu un homme. Et je veux sauver tous les hommes. Et si je te cherche ton bien, et si je continue à te faire grâce, c'est par amour pour lui. Et vous vous souvenez, dans Jean chapitre 17, quand Jésus a prié, et dans sa prière, il y avait justement ces deux versets, les versets 20 et 21, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant de ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Il a dit, Père, voilà. Hein, c'est un peu comme Jonathan qui parlait à David. Il dit, quand tu seras dans le royaume, tu feras du bien à mes enfants. Là, c'est Jésus qui parle au Père. Il dit, écoute, j'ai des enfants qui ont à l'avenir aussi. Et je voudrais que tu leur fasses du bien aussi. Et c'est nous. Nous sommes inclus dans cela. Et Dieu prend soin de nous, non pas parce que notre monde est meilleur, mais parce que Jésus-Christ a prié pour nous. Où se trouvait Mephibosheth quand David s'est intéressé à lui? Il s'est trouvé à Lodébar, l'endroit banni, le désert. Et dans quel état est-ce que Dieu nous a cherchés? Il dit, lorsque nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le prince de ce monde, selon la prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il a dit, voilà, c'est là où j'ai été vous chercher. Quand vous étiez dans le monde, dans le péché, égaré, vous ne me cherchiez même pas, vous ne vouliez rien de moi. Mais je vous ai désiré, je suis venu vous chercher. Mephibosheth, il a été le chercher dans la maison de Makir, le vendu. Dieu est venu nous chercher et nous étions vendus au péché. Et Satan n'avait normalement, il n'avait aucun droit sur nous. Mais nous nous sommes donnés à lui. Et lui a géré notre vie. Et Jésus est venu nous chercher. Le Père est venu nous chercher. Et qu'est-ce qu'il lui offre ? Il dit, écoute, tu sais, Mephibosheth, si tu restes gentil, si tu fais pas de bêtises et tu dis rien contre moi, tu ne parles pas en mal de moi, eh bien, je te laisse vivre. Non, c'est pas ça qu'il lui a dit. Il a dit, je veux que tu sois à ma table tous les jours. Quand je viens manger, je veux te voir là, à ma table. Je veux voir ton visage et je veux penser à ton Père. Et cette communion. Et Jésus-Christ, Dieu nous dit, moi je voudrais que vous soyez un jour avec moi, dans le ciel, afin que je vous vois comme ça, je dis, ah, tout ça, c'est par amour pour mon Fils, Jésus-Christ. Et notre présence, ce sera un grand honneur pour le Fils Jésus-Christ. Et le Père, ça lui fera plaisir de nous voir. Oh, est-ce qu'on est beau ? C'est pas ça. C'est le fait qu'on appartienne à son Fils. Et Dieu désire cette communion. Et cette communion, il a dit, je veux que tu sois là, pas une fois par mois, il a dit, je veux que tu sois là tous les jours. Et le Seigneur désire nous voir. Père, Dieu veut nous voir tous les jours. Il veut que nous parlions, que nous l'écoutions, que nous entendions sa parole. David venait chaque jour, il dit, écoute, Mephibosheth, ça va aujourd'hui ? T'es pas trop mal ? Tu as l'air un peu fatigué ? N'importe quoi, mais tous les jours il voulait le voir. Et il a dit, pas pendant 3 mois, non, jusqu'à tant que tu seras là. Et qu'est-ce qu'il lui a donné ? Il lui permet d'accéder à tout ce qui appartient à son père. Il lui donne tout l'héritage. Il dit, tout ce qui a appartenu à Saül, ce qui a appartenu à ton père, tout l'héritage. Eh bien, c'est pour toi. Je te le donne. Vous savez, c'est ce que le Père a fait pour nous. Il a dit, je vous fais en fils. Et vous êtes co-héritiers de Christ. Hein, c'est ça qu'il nous dit. Or, Romains 8, 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il dit, tout ce qui appartient à mon fils, eh bien, vous pourrez en jouir. C'est à votre disposition. Vous êtes co-héritier de Christ. Mais nous sommes rien. Il a dit, mais c'est pas à cause de vous. C'est à cause de cet engagement que j'ai pris avec mon fils. Quelque part dans le jardin de Gethsémané, il dit, non pas ta volonté, mais la mienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Père, je veux cette alliance, elle est entre nous. Et on va jusqu'au bout. Et en fait, cette présence à la table, cette présence dans le palais, cette présence à la table, ce droit nouveau, ce privilège nouveau, eh bien, était lié uniquement au fait de sa filiation à Jonathan. C'est parce qu'il était le fils, c'est tout. Pas aucune autre raison. Vous savez, si nous avons accès à quoi que ce soit devant Dieu, eh bien, c'est parce que nous sommes liés au Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de péché, il n'y a rien. C'est pour ça que dans nos prières, nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous venons à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en dehors du nom de Jésus-Christ, on n'a rien. Sinon le jugement et la destruction. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il va vous répondre, pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes bon, parce que vous êtes fidèle, parce que... Non, il va vous répondre parce que vous avez demandé au nom de son Fils. Par amour pour le Fils. Méphibosheth, tu peux t'asseoir là parce que tu es fils de Jonathan. Mais Méphibosheth, tu peux te servir de tout ce qu'il y a sur la table parce que tu es fils de Jonathan. Méphibosheth, personne ne peut t'empêcher de rentrer dans le palais quand tu veux. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Pourquoi ? Parce que tu es le fils de Méphibosheth. Méphibosheth, quand tu veux, tu veux parler au roi. Pourquoi ? Parce que tu es le fils de Jonathan. C'est exactement la même chose que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons venir au Père. Pourquoi ? Parce que nous venons au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Méphibosheth a fait devant tout cela ? Eh bien, il nous dit qu'il s'est prosterné. Et nous devons adorer le Seigneur. Il nous dit qu'il a reçu l'héritage. David a dit, je te donne tout. Il a dit, je le prends. Il dit, je veux que tu manges à ma table tous les jours. Méphibosheth, il a dit, eh bien, je serai là tous les jours. Il faudra qu'on me porte, j'arriverai à quatre pattes, je ne sais pas comment il se déplaçait, mais je serai là. Et quelque part, nous aussi, devant le Seigneur, on dit, Seigneur, je prends rendez-vous avec toi tous les jours. Je lis, parce que je veux entendre ta parole, être rappelé de ta pensée. Et je veux te parler. Je veux que tu me parles. Je prends rendez-vous tous les jours. Tu ne demandes pas trop. Tu m'accordes ce privilège. Il dit, je suis qu'un chien, je ne sais pas pourquoi tu t'intéresses à moi. David dit, écoute, non, parle plus comme ça. Tu es fils de Jonathan, donc tu as tous les droits. Et dans un sens, nous, on pourrait continuer tous les jours, et il y a certains chrétiens, ou à les entendre, ils sont tout le temps en train de dire, oh, je suis bon à rien, je suis pécheur, ils sont tout le temps en train de se rouler dans la boue. Et tu dis, ça suffit, je t'ai ramassé, je t'ai lavé, maintenant lève-toi et marche. Méphibosheth, il n'avait pas tous les jours à venir et dire, et chaque jour, chaque fois qu'il rentrait dans le palais, il dit, « Ah, oh, tu sais, David, tu sais, oh, je suis boiteux, je suis rien, je suis bon à rien, si, c'est vraiment, c'est gentil. » Il dit, « Arrête. Viens, mets-toi à ta place, assieds-toi et commence à manger, comme les princes. » Et jouis de cette relation. Et c'est ce que Jésus-Christ nous offre, ce que nous avons en Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et il a dit qu'il a habité dans la ville de Jérusalem. Il a habité dans la cité de David. Et bien sûr, nous attendons ce jour où nous serons dans la cité céleste. Alors là, dans l'histoire de Méphibosheth, du point de vue historique, ça n'a rien changé à l'histoire du monde. Du point de vue... c'est un compliment, sur David, mais c'est une belle image de ce que nous avons en Jésus-Christ. Et nous devons vivre cette relation. C'était une relation, pour David, c'était une relation qui avait commencé après la victoire sur Goliath, et ça n'a jamais cessé. C'est vrai que pendant un temps, Méphibosheth n'était pas au courant. Et lui, il se trouvait à Lodébar, et dans la misère. C'est vrai, c'est parce que lui, il ne savait pas. Mais le cœur de David s'était toujours disposé, bien disposé pour lui. Et il y avait un temps où je ne savais pas que Christ est mort pour moi. Il y avait un temps où j'étais loin. Mais maintenant, je suis là, je le sais. Eh bien, je dois rechercher cette présence. Et Méphibosheth ne pouvait plus aller revivre la vie d'avant. Ce qu'on trouve aussi, c'est que si vous lisez un peu plus loin, dans le chapitre 9, il y a un moment où, à cause d'Absalom, David doit partir. Et Méphibosheth ne peut pas suivre parce qu'il est perclus des pieds. Et quand David revient, eh bien, il est là. et dit, je n'ai ni changé les pansements, je ne suis pas rasé, ni rien du tout. J'étais pas bien tant que tu n'étais pas là. C'est-à-dire là, le sentiment était mutuel. Et dans un sens, si dans la vie, si dans ma vie chrétienne, il arrive un moment où on est séparé du Seigneur pour quelque chose, j'ai fait une bêtise dans ma vie, j'ai fait quelque chose, ou bien c'est juste la négligence dans ma vie. Et un moment, mais après je reviens, Seigneur, du Seigneur, tu sais, quand j'étais pas là avec toi, c'était pas bien, je suis pas bien rasé, les pansements ne sont pas bien faits, tout ça. On veut remettre ça en état et on veut recontinuer comme avant, marcher avec toi. C'est ce que le Seigneur veut, c'est la vie chrétienne que le Seigneur nous propose. Et acceptons-la, parce qu'il nous l'offre. Et puis, n'ayons pas des doutes, parce qu'il dit, c'est pas à cause de toi, n'importe comment, hein. C'est à cause de mon Fils. Donc c'est une sécurité, parce qu'on sait qu'entre lui et le Fils, il n'y aura jamais. Tout comme entre Jonathan et David, l'alliance, elle était là, il n'y avait rien qui pouvait l'annuler. Et aussi, entre Dieu et son Fils, il n'y a rien qui peut l'annuler. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je ne le retire pas. Et si je suis dans le Fils, eh bien je peux jouir de cette relation. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir de cela. Nous avons tout pleinement en lui. Il nous dit dans Colossiens 2:10. Tout pleinement en Jésus-Christ. Hors de lui, on n'a rien. Mais tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 2:10. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous aide à tous marcher avec le Seigneur dans cette relation avec notre Père Céleste qui nous aime parce qu'il a tant aimé Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour cet amour. Tu ne nous aimes pas parce que nous sommes bons, parce que nous savons qu'il y a des jours où nous ne sommes pas bons et on pourrait douter de ton amour. Mais tu nous aimes parce que tu es amour et cela ne change pas. Tu es un Dieu immuable. Et deuxièmement, tu nous aimes parce que tu nous aimes dans le Fils. Et le Fils, tu l'aimes toujours. Et dans le Fils, nous avons accès à tout. Et en dehors de lui, nous n'avons rien du tout et nous sommes dignes de rien. Père, donne-nous de vivre et de venir, pas seulement de dire « Ah, c'est beau, David ne va plus pas me tuer parce qu'il aime mon père », mais il a dit « Je veux que tu sois dans ma maison, tu manges à ma table ». Et Père, tu cherches notre présence, notre communion chaque jour. Veuille nous bénir de cette manière-là et nous te remercions pour cette grâce et que nous puissions en jouir pleinement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je veux vous proposer un cantique. Le 599, j'entends ta douce voix qui me dit, crois en moi. 200.